Alors, j'inviterai à tourner avec moi dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4. L'Épître aux Galates, chapitre 4. Pendant que vous tournez, j'aimerais en profiter ce matin pour exprimer ma reconnaissance, premièrement à notre Dieu, mais aussi à toute l'Église pour votre appui, votre support pendant ces 11 semaines où Yannick était absent. Ça a été pour moi une bénédiction. J'appréhendais beaucoup. Au début, je dois avouer, j'étais un petit peu fatigué. Je savais pas trop qu'est-ce qui m'attendait. Et puis, devant l'ampleur de la tâche, le Seigneur m'a poussé à me mettre à genoux davantage, à prier, implorer son aide. Et j'ai goûté la bénédiction de Dieu à travers ça. Puis, je rends gloire à Dieu pour ça. Par mes propres forces, j'aurais pas été capable. Mais avec l'aide de Dieu, ça a été extraordinaire, je peux le dire comme ça. Ça a été extraordinaire. Je ne m'attendais pas à une tant de bénédictions et je rends gloire à Dieu pour ça. Puis je rends gloire à Dieu pour aussi votre support à travers ça. Je sais que plusieurs vous m'encouragez, plusieurs m'avez supporté dans la prière. Le conseil était là autour de moi. Yannick a même été là à certains moments où on avait besoin. Je pense aux funérailles de Monsieur Famelard, tout ça. J'ai été béni, puis je veux rendre gloire à Dieu, puis vous remercier aussi pour vos prières. Je veux remercier aussi mon épouse, parce que Cynthia appréhendait ça, elle aussi. Elle dit, qu'est-ce qui va se passer, là? C'est quoi qui nous attend? Et puis, souvent, on le réalise pas, mais il y a toujours une... Si je peux exercer ce ministère-là, c'est parce qu'il y a une grande épouse derrière moi qui m'aide à accomplir ce ministère-là et qui est un appui extraordinaire. Puis elle n'est pas là, mais elle est en haut, en train de garder à pouponnière. Mais je rends gloire à Dieu pour mon épouse. Puis si vous avez à cœur de juste l'encourager, allez-y. Ne vous gênez pas parce que c'est pas juste moi qui est là, c'est le Seigneur, mais aussi une grande épouse derrière ça. Gloire à Dieu. Je vais prendre un temps aussi pour ce matin pour vous encourager à prier pour les gens qui sont dans la région du lac Mégantic. Vous avez entendu dans les nouvelles la catastrophe qui s'est passée là-bas avec le déraillement du train. Plusieurs personnes disparues. Certainement, ces gens ont besoin de nos prières. Je sais qu'il y a une église là-bas, une église baptiste, pas de notre association, mais une autre église baptiste. Et ma prière, c'est que même si on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu permet des choses comme ça, que Dieu l'utilise pour sa gloire et qu'à travers ça, des gens puissent, à travers ces catastrophes-là, des gens puissent se tourner vers Dieu. On a chanté tantôt que dans le monde entier, Dieu est souverain. Et Dieu n'est pas c'était pas hors de son contrôle ce qui s'est passé. Dieu est souverain. On ne comprend pas toujours pourquoi, mais Dieu est là et on peut, et certainement le Seigneur a compassion de ces gens-là. Compassion des gens qui sont en train de vivre cette situation difficile et on peut prier pour eux ce matin. Je ne sais pas pourquoi j'assois un appel ce matin à cette heure-là. C'est bon. Alors, on va lire Galates 4 et puis vite, on va aller dans un mot de prière pour prier pour ces gens-là puis que le Seigneur nous conduise dans sa grâce. Alors, Galates 4, je vais lire les versets 1 à 20. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. On va se courir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut venir devant toi humblement ce matin, reconnaissant que c'est toi qui es le roi de l'univers, c'est toi qui as tout créé. Tout est sous ton contrôle, Seigneur. Et nos vies sont entre tes mains. On veut fléchir le genou devant toi, Seigneur, parce que c'est une grâce pour nous ce matin d'avoir le souffle de vie, de pouvoir vivre, de pouvoir jouir de la vie, de pouvoir vivre pour toi. Seigneur, merci de cette grâce. Et en même temps, on veut penser, Seigneur, à ces gens qui sont au lac Mégantic et qui, les familles, les gens, des gens qui ont disparu, qui manquent à l'appel, Seigneur. Seigneur, on veut te prier dans ta grâce d'envoyer ta compassion sur eux. Qu'à travers cette catastrophe, Seigneur, des gens qui ont perdu la vie, que tu puisses être là pour entourer ceux qui pleurent, Seigneur, ceux qui sont dans la tristesse. Que cela puisse pas servir, Seigneur, à les éloigner de toi ou à endurcir leur cœur envers toi, mais plutôt que tu puisses utiliser cette occasion pour leur faire reconnaître que toi, tu es là, tu règnes, et que tu es le Seigneur devant qui ils doivent aussi fléchir le genou. Apporte-leur l'amour de Christ à travers cette situation. Bénis l'Église qui est là-bas, les gens des autres de la région qui entourent aussi, qui vont aller porter leur aide. Seigneur, que dans ta grâce, tu puisses faire éclater ta gloire, même si c'est une catastrophe, Seigneur. On veut se confier en toi. On veut s'appuyer sur toi, sachant que tu entends nos prières, Seigneur. Et on veut s'approcher, Seigneur, de ta parole ce matin, avec un cœur humble, encore une fois, un cœur désireux de te connaître, toi le seul vrai Dieu, de connaître qui tu es et de connaître quelle est ta volonté pour nos vies. Seigneur, un jour, on a reconnu qu'en toi, c'est toi seul qui nous donne la vie éternelle, c'est toi qui nous donne le vrai bonheur. On a fléchi le genou devant la croix, on s'est abandonné à Jésus-Christ qui s'est offert pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous voulons vivre en nouveauté de vie pour ta gloire, être des instruments pour la paix, pour la justice, Seigneur, pour apporter la paix et la justice dans ce monde, la justice qui vient de toi, Seigneur. On veut amener ces gens autour de nous à te connaître et être rendus justes devant toi pour qu'ils puissent eux aussi hériter de la vie éternelle. Alors, Seigneur, fais de nous des auditeurs attentifs ce matin, que par ton esprit, tu puisses calmer nos cœurs et nos pensées. Et que par ta parole, tu puisses nous parler. Parle à moi aussi, Seigneur, alors que j'enseigne. Souvent, tu me parles à ces moments-là et c'est précieux. Parle à chacun de ceux qui sont ici, afin qu'ils puissent recevoir ta grâce ce matin. Recevoir ta parole comme une grâce et comme un encouragement à vivre pour toi. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Il y a quelques années, avec mon épouse, on a écouté une télésérie. Ça nous arrive de temps en temps prendre une petite télésérie sur DVD. Maintenant, c'est le fun. On prend une série, puis deux, trois épisodes, puis on peut accélérer le processus. Mais on a écouté une télésérie qui s'appelle, en anglais, Prison Break. Il y en a qui l'ont écouté, hein? Il y en a qui ont aimé ça. Hein? Ça, c'était wow! C'est l'histoire, dans le fond, pour ceux qui ne l'ont pas écouté. C'est un peu tough, par exemple, je vous avertis tout de suite, si vous êtes tenté d'aller voir ça, c'est un peu dur comme télésérie. Mais quand même, c'était captivant. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a un frère qui est condamné à mort et qui est condamné à être à la peine capitale pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Et là, le jeune homme désire faire évader son frère de prison. Et puis, il va s'arranger par toutes sortes de manières pour se faire mettre en prison lui-même et puis arranger son frère de pouvoir qu'il puisse s'évader. Et puis, évidemment, ben, il y a toutes sortes de péripéties qui se passent à travers cette série-là. Et puis, on est captivé par ce qui se passe et finalement, ça dure plusieurs saisons. Et puis, comme toujours, là, si une saison fonctionne, après ça, il étire l'histoire un peu trop. Là. Mais c'était intéressant quand même. Mais quand je méditais sur le passage de ce matin et de la semaine dernière, ça m'a fait penser, je pensais à cette série-là, puis ça m'a fait penser que moi aussi, j'étais un jour emprisonné. On l'a vu la semaine passée dans le passage, on était emprisonné sous la garde de la loi. Et c'était pas pour un meurtre que j'avais pas commis, mais c'était pour des péchés que j'avais commis. Et puis, j'étais pas injustement mis en prison, mais c'était juste emprisonné sous la loi, sous la malédiction de la loi. Puis la différence avec le frère dans Prison Break, c'est que moi, je méritais d'être emprisonné et d'être sous la malédiction de la loi à cause que j'avais désobéi. Mais par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Christ, toute son œuvre a pris son sens pour moi parce qu'il est venu pour me libérer du pouvoir de la loi et pour me donner la liberté du péché, pour que je puisse placer ma foi en lui puis être entièrement libre. Comme le frère, lui, a dû s'évader, moi j'ai quelqu'un qui est venu prendre ma place pour me laisser sortir de ma prison. Et lorsqu'on pense à tout ça, comment on était avant? Ce qu'on était avant de connaître Christ et ce qu'on est rendu maintenant, ça nous arrive un peu trop souvent d'oublier ça, d'oublier l'œuvre de Christ dans ma vie. On oublie que Christ m'a libéré du pouvoir du péché et du pouvoir de la loi. En retournant à la loi, parfois on est tenté d'y retourner, comme pour mériter la faveur de Dieu, comme on le voit dans le passage, on retourne sous l'esclavage du péché en faisant ça. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on est tenté comme croyant, une fois qu'on est sauvé, qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, de penser que Dieu va m'accepter et je vais gagner la faveur de Dieu si je m'efforce à appliquer sa loi. Et là, avec ça, embarque des lois par-dessus la loi pour, en quelque sorte, m'assurer que je ne désobéis pas à la loi de Dieu. Et on revient, en quelque sorte, comme le passage dit, sous l'esclavage, sous le pouvoir de la loi lorsqu'on fait ça. Et c'est ce que Paul adresse dans toute l'Épître aux Galates. On l'a vu jusqu'à maintenant. Mais Paul cherche, une fois de plus, avec cet argument qui est là, à corriger le problème, ce problème-là dans la vie des chrétiens de Galates. Il était influencé, tenté par des faux docteurs à se mettre de nouveau sous le joug de la loi et respecter la loi comme moyen d'obtenir la faveur et la grâce de Dieu sous la loi de Moïse. Comme si l'œuvre de Christ n'était pas suffisante pour eux, ils voulaient ajouter à ce que Christ avait accompli en observant les œuvres de la loi pour obtenir la faveur de Dieu. Mais Paul voit ce problème-là. C'est un grand problème. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, ils oublient ce que Christ a accompli. Et ça nous arrive, nous aussi, d'oublier ce que Christ a accompli pour nous, qui nous a entièrement libérés, et que maintenant je vis pour Dieu, non pas pour obtenir sa faveur, mais pour lui donner gloire. Et Paul exprime cette tristesse-là, et on le voit très bien dans les versets 12 à 20, vers la fin du passage, parce que les chrétiens sont en train de s'éloigner de la foi de l'Évangile, au lieu de s'appuyer seulement sur Jésus-Christ pour leur salut et pour poursuivre leur maturité en Christ. Ce que Paul désire le plus pour les croyants, on le voit au verset 19, il dit « J'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Ce que Paul désire chez les croyants de ces églises de la Galatie, et ce que Dieu veut pour nous en quelque sorte, c'est que Christ soit formé en nous. Dans le fond, ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse grandir dans une maturité spirituelle, qu'on puisse grandir dans notre sainteté, pour qu'on puisse donner gloire à Dieu. Et puisqu'ils sont devenus des enfants de Dieu, et puisque nous sommes des enfants de Dieu, ça devrait être ça notre désir à nous aussi. Paul encourage au verset 12 en disant « Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. » Il a reçu Jésus-Christ lui aussi, et Christ vit en lui. Et comme nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, Christ vit en nous aussi. Et on devrait avoir ce désir, nous aussi, que Christ soit formé en nous. Et de la même façon que Paul le désire pour les Galates, comme enfants de Dieu, nous devons poursuivre la maturité spirituelle. Nous devons poursuivre à ce que Christ soit formé en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir ensemble. C'est en fait de prendre cette attitude où c'est plus moi qui règne, mais c'est Christ qui règne en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui prend sa place en moi. Et puis qu'à travers ça, je viens à glorifier Dieu par des sentiments qui sont semblables à ceux de Christ. Et je suis animé du Saint-Esprit pour produire des fruits à la gloire de Dieu. Comme enfant de Dieu, on doit poursuivre la maturité spirituelle. Mais comment poursuivre la maturité spirituelle en Jésus-Christ? Le passage de ce matin nous montre trois façons de poursuivre la maturité spirituelle. De chercher à ce que Christ soit formé en nous, de grandir dans notre sainteté. Premièrement, c'est en vivant comme des enfants de Dieu. Et on va aller un petit peu plus en détail parce que je comprends que ça peut être peut-être flou. C'est quoi ça veut dire vivre comme un enfant de Dieu? On va voir ça ensemble. Vivre pleinement comme un enfant de Dieu. Deuxièmement, en ne laissant pas nos idoles reconquérir notre cœur. Et troisièmement, en recherchant la maturité spirituelle de nos enfants spirituels. Premièrement, on peut poursuivre la maturité en Jésus-Christ en vivant pleinement comme des enfants de Dieu. Versets 1 à 7, Paul va élaborer ce que Dieu a fait de nous, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Le Père nous a donné l'adoption, verset 5. Christ est venu pour nous racheter, ceux qui étaient sous la malédiction de la loi, afin que nous recevions l'adoption. Avant, comme on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens, on était étrangers, gens du dehors. On n'était pas les enfants de Dieu. Même Osée va dire que Dieu nous avait appelés « pas mon peuple ». Avant que Dieu intervienne en Jésus-Christ, nous étions pas son peuple. Et dans un sens, c'est comme le rejet de Dieu qu'on comprend par là. Pas mon peuple. Mais on voit que Dieu a voulu autre chose. Parce que pas mon peuple est devenu son peuple à cause de Christ. Et celle qui ne l'appelait pas son peuple a pu être appelée son peuple. Et dans un sens, ce que Dieu a voulu, c'est nous donner l'adoption, nous faire de nous ses enfants. Et nous donner un héritage aussi, faire de nous des héritiers de la gloire de Dieu et de la vie éternelle. Dieu a voulu nous bénir en faisant de nous ses enfants. Il a voulu nous bénir en nous donnant un héritage, la vie éternelle. Le privilège d'avoir une relation intime avec notre Créateur. Dans son plan, Dieu avait déterminé un moment où il rendrait possible l'adoption et l'accès à l'héritage promis. Dieu le Père a voulu que pas son peuple devienne son peuple. Que pas ses enfants deviennent ses enfants. Et ça, c'est la grâce de Dieu. On méritait pas ça, mais Dieu a voulu faire ça. Il a voulu qu'on puisse, on va le voir plus loin, être capable de dire envers Dieu, « Papa ». Et retrouver cette relation intime-là avec notre Créateur. Et Dieu l'a rendu possible à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ a rendu possible l'adoption, versets 3 à 5. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Dieu a envoyé son Fils. Son Fils l'a fait par soumission au Père. Et Dieu a voulu, dans sa grâce, envoyer son Fils dans le monde pour que nous puissions devenir ses enfants et recevoir l'adoption. Et on voit un peu plus dans le verset 4, certains éléments théologiques que Paul met en place pour montrer que Christ est celui qui nous donne l'adoption. Christ est celui qui permet de nous d'être réconciliés avec Dieu. Premièrement, Christ est né d'une femme. Pourquoi il spécifie ça? né d'une femme, né sous la loi, les deux aspects, né d'une femme. Pourquoi? Pour expliquer que Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui régnait avec Dieu au ciel, avec Dieu le Père, a revêtu une forme humaine. Il a pris notre nature. Il est né d'une femme. On est tous nés d'une femme. On est tous des êtres humains parce qu'un jour, on est sorti du ventre de notre mère. Et Jésus a revêtu notre humanité. Il est né d'une femme. Jésus a revêtu notre humanité, ce que nous étions. Il s'est humilié de la gloire qu'il avait pour venir et naître comme un pauvre enfant. Et vous connaissez l'histoire de Jésus, de la naissance de Jésus, dans l'humilité. Ce n'était pas l'hôpital 5 étoiles dans lequel il est né. Jésus s'est humilié pour devenir semblable à nous, dans une crèche, pauvre. Jésus est né d'une femme. Il est né d'une femme pour revêtir notre humanité. Et qu'est-ce qu'il a fait en plus? C'est qu'il est né sous la loi. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? En naissant dans ce monde comme un homme, Jésus s'est identifié à nous, qui étions sous le pouvoir de la loi. Il a revêtu toute l'humanité et est né sous la loi lui aussi, a été soumis à la loi de Dieu. Né sous la loi veut dire que Jésus est né et soumis entièrement à la loi de Dieu lui aussi. La loi que lui-même avait donnée, il s'y est soumis. Étant Dieu le Fils, il s'est soumis à sa propre loi. Et contrairement à nous, Jésus n'était pas sous la malédiction de la loi, mais il est né sous la loi, sous le pouvoir de la loi, il devait lui obéir. Et contrairement à nous, qui avons désobéi, on l'a vu plusieurs fois jusqu'à maintenant, celui qui pèche contre un seul commandement est coupable de tous. On était maudit à cause qu'on n'observait pas tous les commandements. Lui a tout observé. Tout obéit parfaitement à la loi de Dieu. Pourquoi? Dans quel but? Parce que par son obéissance parfaite, il rendait possible le fait de prendre une condamnation sur lui, pas pour ses propres péchés, mais pour les autres, les péchés des autres. Et donc, il devenait une victime parfaite. Il pouvait se présenter devant Dieu et dire, j'ai obéi parfaitement à la loi. Et j'aimerais que ceux qui sont ici, qui ont toutes désobéi à la loi, tous ceux-là, soient avec moi, mais je vais prendre leur condamnation, la condamnation à leur place, pour que je puisse les racheter. Et dans un sens, ceux qui étaient sous l'esclavage, ceux qui étaient emprisonnés sous la garde de la loi, Jésus est venu pour les racheter, offrir sa vie comme une rançon pour les libérer. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il est né d'une femme, né sous la loi, s'est identifié à nous, a obéi parfaitement et est venu nous libérer du pouvoir du péché. Jésus-Christ est venu pour nous racheter et nous donner l'adoption. Ce que Christ a fait en subissant cette condamnation à notre place, c'était pour nous libérer et pour nous donner l'adoption. Il a payé notre rançon. Et nous qui étions sous la loi, sous la malédiction de la loi, il a été maudit à notre place pour qu'on puisse être libérés de la loi. Il est venu pour nous donner l'adoption puis pour rendre possible de devenir enfants de Dieu. En plus, que Dieu a fait, par la suite, on voit que Dieu, après nous avoir rachetés, nous qui avons placé notre foi en lui, Dieu a envoyé son esprit. C'est une œuvre de la Trinité, le salut. Dieu le Père, la source de l'amour, qui envoie son Fils, qui vient mourir sur la croix et qui nous rachète du pouvoir de la loi, ensuite de ça, nous donne son esprit pour qu'on puisse avoir Dieu qui vit en nous, l'Esprit de Dieu, et être en relation parfaite avec le Père. L'œuvre du salut est une œuvre merveilleuse parce que la Trinité, le conseil de la Trinité a tout mis en œuvre pour que ça puisse arriver. Et aujourd'hui, maintenant, on reçoit l'Esprit de Dieu qui nous permet de vivre comme des enfants de Dieu. Et lorsque je dis pour grandir en maturité spirituelle, il faut vivre comme un enfant de Dieu, il faut réaliser que Dieu m'a aimé, que Jésus-Christ m'a racheté et que maintenant j'ai reçu l'Esprit de Dieu qui confirme mon adoption puis que je peux maintenant dire « Papa ». Maintenant, je peux, en réalisant ça, je grandis en maturité parce que maintenant, je ne suis plus celui qui est étranger, mais celui qui appartient à Dieu entièrement. Pas à cause de mes bonnes œuvres, pas à cause que j'étais un bon gars qui obéit à la loi, au contraire, mais à cause de Christ, de ce que Christ a accompli pour moi. Et c'est ce que Dieu a voulu faire, nous donner son esprit, qui nous permet de vivre comme des enfants de Dieu. Maintenant, on peut vivre comme un enfant de Dieu parce que Dieu nous a donné son esprit. Maintenant, on peut se tourner vers lui et dire « Papa ». Ce langage-là de « Papa », on le retrouve « Abba, Papa ». On le retrouve aussi dans Marc. Quand Jésus est dans le jardin de Gethsémané, on parlait tantôt de la relation intime que Dieu avait avec le Père. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus a dit « Papa, Abba ». Et cette expression-là de l'intimité entre le Fils et le Père, Dieu nous la donne à nous aussi. Qu'on peut vivre dans l'intimité avec Dieu, puis s'approcher, puis dire « Papa », de la même façon que Jésus disait « Papa ». L'amour de Dieu a été déversé pour nous pour qu'on puisse être héritier, enfant de Dieu, entièrement adopté. J'étais orphelin, Dieu m'a adopté. Et maintenant, l'Esprit crie en nous « Abba, Papa ». C'est par l'Esprit de Dieu que ça, c'est possible. Avant, je n'étais pas capable de dire « Papa ». Mais maintenant, par Dieu, lui-même qui vit en moi, je suis capable de me tourner vers le Père et de dire « J'ai cette relation intime et je peux venir à lui et dire « Papa ». Je prends souvent mes enfants comme exemple, mais je trouve que ça illustre trop bien. C'est Dieu qui utilise même cette image-là. Mais ça illustre trop bien. Depuis que je suis père, on dirait que je comprends plus l'amour que Dieu a pour moi. Parce que je le vis avec mes enfants, je le vis avec mes garçons, ma fille. Et puis, voilà quelques semaines, on était chez Dani et Rachel, justement, pour une petite fête. Je me souviens plus, c'était une occasion comme ça. On est allé se baigner. Et puis, notre garçon, Liam, a 4 ans. Et puis, il était dans la piscine. Et puis, j'aime ça utiliser la piscine aussi comme exemple. Et puis, il était là dans la piscine. Puis là, je voulais l'aider à apprendre, à se débrouiller un petit peu tout seul. Mais aussitôt que je le laissais aller, c'était la panique totale. Vraiment, là, c'était la plus grande épreuve pour lui. Puis des fois, on est là comme ça, et puis on a une épreuve que Dieu permet, puis on est là, puis pour nous, c'est une panique. C'est dans le sens, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis Liam, je ne pouvais pas le laisser, là, c'était, excusez-moi, je ne crierai pas aussi fort parce qu'il y a vraiment une bonne voix. Mais la crise, dans le sens, la panique. Et qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il disait? Papa! Papa! Il voulait que je sois là pour lui. Mais de la même façon, l'Esprit crie en nous, « Papa! » Quand je suis dans mes difficultés, dans mes épreuves, quand c'est insurmontable, l'Esprit crie, « Papa! » L'Esprit te pousse à dire, « Papa, aide-moi! » Et je peux m'approcher de Dieu parce que j'ai cette confiance qu'en Jésus-Christ, je suis pardonné. Je suis son enfant et je m'approche de lui. C'est un héritage merveilleux qu'on a en Jésus-Christ. Et on n'en profite pas assez souvent parce que des fois, on oublie combien Dieu veut cette relation intime avec nous. Et par la grâce de Dieu, on doit vivre et laisser l'Esprit de Dieu crier « Papa ». Pas trouver par nos propres moyens à satisfaire Dieu ou à chercher la faveur de Dieu, mais vraiment juste laisser dire « Seigneur, tu m'as donné ton Esprit, c'est par lui que je crie à toi maintenant, je te prie, aide-moi. » Et Dieu veut ça. Dieu veut cette intimité avec nous. Et vivre comme un enfant de Dieu, pleinement comme un enfant de Dieu, c'est laisser l'Esprit de Dieu prendre toute sa place et vivre cette intimité avec Dieu. Je reconnais que Dieu m'a sauvé, il est mon papa et je peux me confier en lui. Ça, c'est la première façon de grandir dans une maturité spirituelle, d'avoir Christ formé en nous, c'est de dire « Papa » comme Jésus a dit « Papa » par l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, c'est en ne laissant pas nos idoles reconquérir nos cœurs, le verset 8 à 11. Paul va dire « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? » En réalité, on est tenté parfois de retourner à nos idoles, les dieux qu'on servait autrefois. Avant de servir Dieu, on servait des idoles. Et des fois, vous dites, peut-être vous pouvez vous dire, ben moi, je n'avais pas de statue dans ma maison, je ne me prosternais pas devant elle. OK, on va énumérer qu'est-ce qui pourrait être nos idoles à nous. Les idoles, en fait, c'est toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans notre cœur. Dieu veut toute la place, puis des fois, on laisse une petite place pour quelque chose d'autre, puis C'est ça qui nous... on trouve notre satisfaction dans cette chose-là. Et ça, c'est nos idoles. Exemple, la religion, dans le fond, ce qui était le cas des Galates, de retourner à la loi, d'observer la loi pour obtenir la faveur de Dieu. C'était une idole, ça. La loi était devenue une idole pour eux. Ils trouvaient leur satisfaction dans l'accomplissement de la loi, pas parce qu'ils voulaient plaire à Dieu, mais par orgueil, pour dire « Je suis capable et Dieu m'accepte ». L'orgueil était une de leurs idoles. Et l'orgueil entraîne d'autres idoles. La réussite. Je dévoue toutes mes priorités dans ma vie, tout mon temps, à réussir, à avoir le succès. Protéger ma réputation. Je vais être prêt à pécher pour protéger ma réputation, pour pas que ma réputation soit entachée. Ça peut être ça. Notre identité. L'estime de soi. Toutes ces choses-là, en quelque sorte, je dis ces choses-là, puis peut-être que ça peut ne pas être clair, mais c'est souvent des choses qu'on poursuit. J'ai vécu pendant un certain temps l'estime de soi. Ah, moi, je suis pas bon, je suis pas capable de faire ça. Puis là, tu cherches par tes propres forces à satisfaire ce besoin-là. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose, puis là, j'espère que la personne apprécie ce que je fais. Puis là, la personne apprécie, ça satisfait maintenant. Parce que pourquoi les gens sont satisfaits de moi, puis ça augmente mon estime de moi-même? C'est un exemple. En fait, c'est ce qu'on poursuit. C'est quoi les actions qu'on pose chaque jour? Est-ce qu'ils sont en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils sont en train de poursuivre la gloire de Dieu ou satisfaire un besoin personnel? C'est ça la question. Une idole, c'est ce qui va prendre la place de Dieu. Et je vais poursuivre ma satisfaction en suivant cette passion-là qui est là dans mon cœur plutôt que chercher à glorifier Dieu. Et Paul va dire qu'on était esclaves de nos passions. Sans le savoir, on était aveuglés par nos passions qui nous éloignaient de Dieu. Et puis, un jour, par l'œuvre de Christ, Dieu s'est fait connaître à nous. On a connu Dieu. Et Paul va dire, ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. C'est comme les deux. Si je connais Dieu, c'est parce que Dieu m'a connu. Et en quelque sorte, c'est encore plus fort. C'est comme Dieu qui vient vers moi. C'est pas moi qui tourne vers Dieu, c'est lui qui vient me chercher là où j'étais. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai arrêté de servir ces idoles-là. J'ai arrêté de chercher la faveur de Dieu par mes propres forces et je me suis tourné vers Christ pour servir Dieu maintenant. Et c'est ce que Dieu est venu changer. Et alors qu'on connaît réellement Dieu et sa grâce pour nous, il arrive encore que nos idoles peuvent reconquérir nos cœurs. C'est possible pour nous, après avoir connu Dieu, de continuer d'être séduit par nos anciennes idoles, nos anciens péchés. Et j'ai donné quelques exemples de ce que ça pouvait être. Mais alors que Christ m'a libéré du péché, de mes passions, de mes idoles, ça m'arrive parfois de retourner à ces idoles-là. Et c'est là que Paul va dire, vous retournez à ces pauvres principes élémentaires, mais en réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous êtes en train de fuir l'adoption que Dieu vous a donnée. Vous êtes enfant de Dieu. Et maintenant, à la place de servir Dieu, vous servez des idoles. Vous fuyez l'adoption que Dieu vous a donnée pour servir des idoles. Et c'est ça, la grande évasion. La grande évasion, c'est de... Une fois que j'ai été libéré, c'est d'aller me replacer sous l'esclavage de mes idoles, plutôt que de servir et glorifier Dieu. À cause de notre chair, on continue de pécher. Hébreux 12 va dire, le péché qui nous enveloppe si facilement. Et vous le vivez tous. Jour après jour, on est confronté devant nos idoles, devant nos péchés. On est là, puis c'est trop facile de tomber. On a nos luttes. Et lorsqu'on s'abandonne à ces idoles et à ces péchés-là, c'est comme si on fuyait l'adoption, fuyait la grâce merveilleuse que j'ai reçue en Jésus-Christ et j'étais en train de retourner à ces principes élémentaires de servir mon cœur, mes idoles. Mais si on ne veut pas que nos idoles reprennent la place de Dieu dans nos cœurs, on doit fuir nos idoles et fuir nos idoles par l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses et on doit laisser par l'Esprit de Dieu dire, « Seigneur, aide-moi à voir c'est quoi mes idoles et mes péchés. Des fois, ils sont évidents, mais des fois, ils ne le sont pas. Aide-moi à les voir pour que je puisse pas fuir l'adoption que j'ai trouvée en toi, mais que je puisse vraiment jouir de cette adoption-là. Je ne veux pas retourner à ces principes élémentaires, ces choses-là. Seigneur, par ton esprit, aide-moi à t'obéir. » On doit s'examiner et laisser l'Esprit de Dieu. Et ça, pour tout ça, ça prend du temps avec le Seigneur, devant sa parole, en silence. Regardez c'est quoi la volonté de Dieu et laissez l'Esprit nous parler, nous pointer. David va dire dans le psaume 139, une prière que je désire sur mon cœur régulièrement, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Des fois, ça se peut que je pense que je suis correct, mais je ne le suis pas, puis je suis en train de désobéir à Dieu sans le savoir. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, puis conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si je ne suis pas dans ta volonté, Seigneur, ramène-moi dans ta volonté pour que je puisse vivre pour toi. » Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on est capable de faire ça. C'est à cause que Dieu a mis en nous son Esprit qui crie « Abba, Papa! Papa, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, puis conduis-moi sur la voie que toi tu veux pour moi. » Par l'Esprit de Dieu, je peux réellement abandonner, fuir mes péchés, fuir mes idoles et glorifier Dieu pleinement. Donc, fuir nos idoles avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et troisièmement, on peut poursuivre la maturité spirituelle, que Christ soit formé en nous, en suivant l'exemple de Paul, versets 12 à 20, en recherchant la maturité spirituelle des enfants spirituels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Paul est un exemple d'un homme mature en Christ. Okay? Paul était capable de dire, « Imitez-moi, soyez des imitateurs de Dieu, puis soyez mes imitateurs aussi, parce que moi, j'essaie de l'être de l'imitateur de Jésus-Christ. » Fait qu'il y avait cette maturité-là, capable de dire, « Regardez-moi, faites la même chose que moi. » Et Paul avait ce zèle pour Dieu, ce cœur, cette maturité capable de dire, suivez mon exemple. Et qu'est-ce qu'il voulait ensuite? Il prouvait la même chose envers eux, envers ses enfants spirituels, pour qu'eux autres expriment une maturité spirituelle. Alors, peut-être que tu dis, moi, j'ai pas d'enfant spirituel. Moi, j'ai personne. J'ai jamais conduit personne au Seigneur. J'ai pas d'enfant spirituel. Comment je peux faire ça si je n'ai pas? En fait, peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'église ou quelqu'un qui vient ici un dimanche, qui est visiteur, puis qui, dans un sens, se convertit au Seigneur, puis il n'y a personne vraiment qui l'a accompagne, qui est disponible pour l'accompagner. Peut-être que toi, tu peux accompagner quelqu'un comme ça, qui est venu au Seigneur. Ou peut-être un jeune dans la foi qui a besoin de grandir. Dieu nous a demandé de faire l'œuvre de l'Évangile. Et c'est ça une marque de ceux qui sont des parents spirituels, c'est qu'ils font l'œuvre de l'Évangile. L'œuvre de l'Évangile, c'est de former des disciples. Des disciples de Christ qui deviennent matures en Christ et qui sont en mesure d'en former d'autres. Donc, je veux, comme croyant, obéir au Seigneur, former des disciples qui vont devenir matures pour être capables d'en former d'autres. Et comme M. Kennedy dit dans le cours de EE, on évalue nos résultats spirituels par nos petits-enfants spirituels. Ça veut dire j'ai formé quelqu'un qui en a formé quelqu'un d'autre. C'est tout un défi. Mais c'est ce que Paul avait, ce désir sur son cœur, de voir Christ formé dans le cœur des enfants spirituels. Et quand il dit « Soyez comme moi », verset 12, parce que moi aussi je suis comme vous, j'ai reçu Christ, et Christ m'a fait grandir en maturité. Faites la même chose que moi. Désirez-vous aussi voir une maturité spirituelle dans le cœur de vos frères et sœurs? Désirez, faites-le. Faites l'œuvre de l'Évangile. Et là, peut-être que tu es dans une situation où tu dis, je ne suis pas vraiment mature, je ne suis pas prêt pour le coaching, je ne suis pas prêt pour faire de la formation de disciples, je ne suis pas rendu là, j'ai besoin de grandir. OK, es-tu en train d'être formé? Y a-t-il quelqu'un qui te forme? As-tu demandé à quelqu'un d'être ton formateur pour que tu grandisses en maturité et que tu sois capable de le faire? Parce qu'oublie pas que c'est le commandement que Dieu a donné, il faut que tu en formes toi aussi. Mais j'ai vu aussi d'autres, il ne faut pas attendre d'être parfait, hein? J'ai vu d'autres imparfaits, avec leurs faiblesses, puis dire, puis tous les coachs qui sont ici, là, qui font la formation de disciples, sont capables de dire, j'ai mes faiblesses à moi aussi, que j'ai besoin de travailler. Mais une des façons de travailler puis de grandir en maturité spirituelle, c'est quoi? Avoir Christ formé en nous. Sois un coach, puis là, ça va t'amener à te regarder toi plus, puis dire, j'ai besoin d'être un modèle pour eux. Et là, Christ vient faire son œuvre en nous par son esprit, puis il nous travaille pour qu'on grandisse nous aussi. Mais il faut se mettre à l'œuvre. Si je reste assis ici, je viens un dimanche matin, j'écoute la prédication, je pars, je m'embarque pas dans la mission que Dieu m'a donnée, comment je peux grandir spirituellement? J'ai besoin de m'investir dans cette mission que le Seigneur m'a donnée. J'ai besoin d'être un parent spirituel qui grandit en maturité pour donner l'Évangile à d'autres. Et ça, c'est la marque d'un parent spirituel, c'est qu'il est en train de faire l'œuvre de l'Évangile. Une autre marque, c'est qu'il est zélé pour la gloire de Dieu. Il désire que les gens autour de lui glorifient Dieu. Les faux docteurs dans la Galatie, dans les églises, avaient un zèle pour eux. Le parent spirituel, quelqu'un qui arrive à une maturité spirituelle, recherche un zèle pour la gloire de Dieu. C'est Dieu qui va se glorifier à travers moi et cherche la gloire de Dieu. Et ça m'est arrivé parfois. On est confronté, et là, l'estime de soi et tout ça embarque aussi parce que je suis en train de coacher, puis là, j'espère d'avoir des résultats dans la vie de ceux que je suis en train de former, puis je veux voir des fruits, puis tout ça. Mais ça ne marche pas. Des fois, ça ne marche pas. Ben, c'est-tu moi le problème? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Et puis là, ça donne que quelqu'un d'autre intervient, puis pouf! Il s'est passé de quoi, puis moi, c'était pas moi que le Seigneur a utilisé. Comment je réagis dans ce temps-là? Si je suis zélé pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu! Seigneur, il a voulu utiliser l'autre, puis c'est pas de ma faute, c'est Dieu a arrangé ça comme ça. Puis peut-être que si je cherchais ma propre gloire, le Seigneur dit, c'est moi qui va se glorifier à travers ça, tu vas voir. Puis c'est ça qui se passe. Mais ça peut arriver des fois, on s'investit dans la vie des gens, on est là, puis on essaie, puis finalement ça donne pas de résultat, puis quelqu'un d'autre intervient, l'Esprit de Dieu fait son œuvre à travers ça. Gloire à Dieu! C'est ce que je désirais, c'était ça la prière qui était sur mon cœur. Seigneur, tu ne m'as pas utilisé pour que j'aie la réponse, mais tu as utilisé quelqu'un d'autre, puis tu t'es glorifié à travers ça. Gloire à Dieu! Alors, quand que je suis là, puis quand on s'investit dans la formation de disciples, puis je parle à ceux qui l'ont déjà fait, là, des fois c'est difficile, on ne voit pas de fruits, ça avance pas, puis on continue. Tu ne peux pas se dire d'autre chose. Tu te mets à genoux, tu pries, tu fais là, ton travail, puis à un moment donné, par la grâce de Dieu, Dieu fait une œuvre dans le cœur de la personne et c'est pour sa gloire. Donc, un parent spirituel, c'est quelqu'un qui fait l'œuvre de l'Évangile, mais c'est quelqu'un aussi qui a un zèle pour la gloire de Dieu. Et finalement, c'est quelqu'un qui exprime l'amour de Dieu pour ses enfants spirituels. On voit le cœur de Paul dans versets 19 et 20. Mes enfants, il est traité de stupide au début du chapitre 3. Vous êtes une gang de stupides. Mais dans le fond, là, quand j'ai dit bande de caves l'autre fois, j'ai dit, c'est une bande de caves. Voyons donc, pourquoi tu fais ça? Désespéré, par amour, il me semble que je t'ai enseigné ça, je t'ai enseigné l'Évangile, je t'ai enseigné à grandir, puis là, tu retournes à ça. Mes enfants, vous n'avez eu, là, ceux qui n'ont eu, il faut répéter, hein? Faut tout le temps répéter les mêmes affaires. Assieds-toi comme faux, pète-toi pas debout, puis tout le temps. Mais mon cœur de père derrière ça, lorsque je vois mon enfant mal agir, c'est je veux ton bien. Et Paul est en train d'exprimer ça ici. Mes enfants, j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Dans mes entrailles, là, je sens une douleur parce que je voudrais tellement voir Christ formé en vous. Et ça, c'est l'amour d'un parent spirituel. C'est l'amour qu'on devrait exprimer pour nos frères et sœurs lorsqu'on se place devant Dieu. Seigneur, fais cette œuvre-là dans la vie de mon frère, ma sœur. Puis comme pasteur, bien, on est là et on dit, Seigneur, c'est ton église. Je ne peux rien faire. C'est toi qui convainc. Fais ton œuvre à travers ça. Et c'est un amour, une inquiétude pour les enfants de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. On doit exprimer l'amour de Dieu pour les enfants dans la foi et désirer profondément leur maturité spirituelle. Et on grandit dans cet amour-là à mesure que nous, on grandit dans l'amour de Dieu. Quand je grandis dans un amour pour Dieu et que je cherche la gloire de Dieu dans la vie des gens autour de moi, je vais chercher en quelque sorte à exprimer l'amour de Dieu envers ces gens-là et leur dire, les encourager à marcher pour Dieu. Donc la maturité spirituelle s'exprime en faisant l'œuvre de l'Évangile. Elle s'exprime aussi en cherchant la gloire de Dieu pleinement, mais aussi en démontrant de l'amour pour les enfants spirituels. Maintenant qu'on est enfant de Dieu, Dieu nous demande de poursuivre cette maturité-là, de laisser Christ régner en nous pour qu'on soit formé à l'image de Jésus-Christ, grandir dans notre sainteté. Cette maturité-là, on la poursuit en réalisant et en vivant pleinement comme des enfants de Dieu, en fuyant les idoles de nos cœurs, puis en recherchant la maturité spirituelle dans la vie, dans nos vies et dans la vie des gens autour de nous. Cette poursuite de maturité spirituelle-là, c'est rien d'autre que la poursuite de la gloire de Dieu dans ma vie et dans l'Église. Ce que je désire, c'est voir moi glorifier Dieu, puis voir les frères et sœurs en train de glorifier Dieu, puis marcher en maturité, en train de faire l'œuvre de l'Évangile. Le Seigneur m'a délivré de mes péchés, il m'a rendu libre pour que je puisse le glorifier. Maintenant, le but de ma vie, c'est de grandir dans cette maturité-là pour que je puisse glorifier Dieu dans tout ce que je fais. Puis maintenant que je lui appartiens, que fait de moi son enfant, je ne veux pas fuir l'adoption puis retourner en arrière. Au contraire, je veux vivre pleinement les bénédictions puis la joie qu'il y a en réserve pour moi. Maintenant, je veux vivre la relation intime avec mon papa en trouvant ma joie dans ce qui lui fait vraiment plaisir. Que par sa grâce, notre papa nous garde de nous évader de sa grâce, qu'il nous aide ensemble à poursuivre sa gloire en recherchant à ce que Christ soit formé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, à travers ce passage, on voit le cœur de l'apôtre Paul, mais on voit ton cœur pour nous. Je pense que Paul exprimait les sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus lorsqu'il voyait ses disciples en train de faire en train de pécher ou en train de se détourner. Seigneur, c'est ton cœur qu'on voit dans ce passage-là. Tu désires notre bien, tu désires notre bonheur. Puis tu le sais, puis c'est toi qui l'as déterminé, Seigneur, notre maturité en Jésus-Christ, notre transformation à l'image de Christ, c'est ça qui apporte la joie, le bonheur, parce qu'on cherche ta gloire à travers ça. Et Seigneur, on a besoin de toi. Et c'est pour ça, Papa, qu'on vient devant toi. On a besoin, Seigneur, que tu puisses nous rappeler l'œuvre merveilleuse de Christ, que tu nous permettes de voir nos idoles comme la pire chose. Qu'on ne revienne pas en arrière, Seigneur, mais qu'on marche avec toi dans l'adoption que tu nous as donnée. Qu'on marche avec toi main dans la main, Seigneur. En grandissant comme des enfants et qui deviennent un jour matures parce que Christ les a transformés et continue de le faire. Seigneur, c'est notre désir, c'est ce qu'on veut. On veut t'abandonner nos vies, on veut te donner notre vie pour qu'on puisse être des adorateurs fidèles qui cherchent ta gloire. Merci Seigneur pour ton Église, merci pour ce privilège d'enseigner ta parole. Et Seigneur, fais de moi premièrement un modèle de ta personne pour mes frères et sœurs. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.